Voilà, alors pour vous qui nous rejoignez ce matin, nous sommes en train d'étudier dans l'Église, à travers des derniers cultes, la prière de Jésus dans Jean 17. Et on a vu que cette prière, c'était pas n'importe quelle prière, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est-à-dire, c'est la prière du grand prêtre qu'est Jésus. En fait, dans cette prière, on se rend compte que Jésus se projette déjà au-delà de la croix. La croix n'est pas encore arrivée, mais Jésus est déjà au-delà de la croix. Il remplit un office qui sera l'office qu'il va occuper après la croix, après sa résurrection. Puisque la Bible nous parle de lui comme le grand prêtre qui est aujourd'hui dans les cieux et qui intercède pour nous. Alors c'est une prière importante, c'est la dernière prière. C'est à peu près la seule prière qu'on a dans la Bible de Jésus où on connaît le contenu, mis à part le Notre Père qui est une prière plutôt modèle pour nous. Et au fond, dans cette prière, Jésus nous donne les sujets auxquels il s'engage, les choses auxquelles il s'engage pour nous. Il y a 7 sujets de prière. On ne va pas les énumérer ce matin. On en a déjà vu 2. D'abord, Jésus demande qu'il soit glorifié par nous, qu'il soit glorifié en nous. C'est la première chose qu'il mentionne dans sa prière. Et c'est un objectif que Jésus continue à poursuivre et pour lequel il prie. Qu'il soit glorifié à travers nous. La deuxième prière, c'est que nous soyons gardés dans ce monde. Il disait qu'il priait non pas pour le monde, mais pour nous, qu'on soit préservés dans ce monde, gardés du mal. Et ce matin, dans Jean 17, 13, on va s'intéresser au troisième sujet de prière. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète ou une joie parfaite. Le troisième sujet de prière de Jésus pour nous, pour ses disciples, c'est qu'ils connaissent la joie qu'il habitait, une joie parfaite, il dit. Alors, c'est intéressant de se poser la question et peut-être de s'interroger quelle était la joie de Jésus dans ce monde. Qu'est-ce qui faisait sa joie? De quoi se nourrissait la joie de Jésus lorsqu'il était dans ce monde? Ça ne nous est pas facile à nous, pécheurs, d'imaginer avec exactitude quelle était la vie réelle de Jésus. Qu'est-ce qu'il ressentait? Comment il vivait les choses? On sait qu'il était pleinement homme et qu'il a connu les mêmes limites que nous. Il mangeait, il buvait, il devait dormir. Il connaissait aussi les mêmes émotions que nous. Jésus a connu la tristesse, les pleurs, le chagrin, l'indignation, la colère parfois, comme dans le temple, lorsqu'il a vu le trafic qui se faisait. Mais la Bible dit aussi qu'il connaissait la joie et l'allégresse. De toutes les expériences humaines que Jésus a vécues, ce qu'il désire partager avec nous, ce qu'il désire que nous connaissions en tant que ses disciples, c'est la joie qui était la sienne. La vie chrétienne n'est pas une vie triste pour Jésus, c'est une vie heureuse et joyeuse. Et il désire que nous partagions avec lui la joie qui était la sienne. Alors, qu'est-ce qui faisait la joie de Jésus dans ce monde? On n'a pas un passage précis qui nous en parle, mais il y a plusieurs éléments qui peuvent nous conduire à comprendre quelle était la joie de Jésus, ce qui faisait sa joie, son bonheur. D'abord, dans Matthieu 3, verset 17, c'est la première parole, on peut dire, de Dieu, du Père, pour Jésus. Matthieu 3, verset 17, c'est au moment de son baptême, lorsque Jésus affiche déjà quelle est sa mission, parce que c'est ça son baptême, il nous montre qu'il est venu pour les pécheurs. Il se met au rang des pécheurs, même s'il n'a pas confessé de péché, mais pour dire qu'il s'identifie pleinement à nous. Lorsqu'il ressort de son baptême, que le Saint-Esprit vient sur lui, au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » La première source de joie de Jésus, c'était l'amour du Père pour lui. Cette relation profonde de communion, d'intimité qui le liait à son Père. Jésus était le Fils bien-aimé de Dieu, éternel. Et il y avait dans cette relation la source principale de la joie de Jésus. Il le dira de plusieurs manières dans l'Évangile, en montrant que ce qui le nourrit par-dessus tout, c'est d'être dans cette relation d'intimité et de proximité avec son Père. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce titre qui est donné à Jésus à plusieurs reprises, le Fils bien-aimé du Père, eh bien c'est un titre qui nous est aussi attribué de nombreuses fois dans le Nouveau Testament. Et c'est le même mot qui est donné pour définir ce que le Fils représente pour le Père et ce que nous représentons pour Dieu. Dans Romains, verset 7, il est dit « À tous ceux qui, à Rome, sont les bien-aimés de Dieu. » Romains, verset 7. 1 Thessaloniciens, verset 4, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Dans l'original, le terme bien-aimé veut dire le favori, en quelque sorte. Celui qui compte par-dessus tout. Jésus est celui qui était le favori du Père, bien sûr. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Jésus, nous devenons aussi les bien-aimés de Dieu, les favoris de Dieu. Quand on regarde la vie de Jésus, on peut comprendre cet amour particulier du Père à cause du modèle de la perfection, de la sainteté qui habitait dans le Fils. Et pourtant, nous qui sommes sortis du péché, qui sommes habités par une nature si mauvaise, en Jésus, nous sommes hissés à ce rang. Nous sommes considérés par le Père comme des bien-aimés, des frères de Jésus. Et je crois que ça doit être là, pour nous, dans notre vie quotidienne, une source de joie importante. Ma femme, elle travaille dans le milieu médical, dans le milieu scolaire, avec des enfants. Et elle pourrait vous dire combien un enfant qui n'est pas aimé par ses parents a du mal à connaître la joie et le bonheur. Un enfant qui n'est pas aimé ne peut pas être un enfant joyeux. Et la Bible, elle est là pour nous donner une bonne nouvelle, c'est que même si nous n'avons pas été aimés par nos parents, eh bien nous avons un Père qui nous aime profondément en Jésus-Christ. Nous sommes pour lui un trésor, quelqu'un de précieux qu'il aime par-dessus tout. Et ici-bas, certes, on peut connaître bien des difficultés, des épreuves. On peut tout perdre en une journée. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas nous prendre, c'est l'amour éternel, l'amour que Dieu nous porte à cause de son Fils. Dans Romains 8, l'apôtre Paul énumère toutes les choses difficiles qui peuvent être le lot des chrétiens dans ce monde. Il parle de l'angoisse, la faim, la persécution, le péril, l'épée, le dénuement. Mais Paul termine dans sa lettre, en tout cas ce chapitre, non pas par quelque chose qui pourrait nous décourager, mais plutôt par une note triomphale. Il dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par qui ? Par celui qui nous a aimés. » Ce qui rend notre vie victorieux, ce qui nous permet de sortir la tête de l'eau quand c'est difficile, eh bien, c'est de nous rappeler que nous sommes l'objet d'un grand amour, l'amour du Père pour nous. Et Paul poursuit en disant, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors j'aimerais vraiment que on puisse vraiment se souvenir de cela. L'amour de Dieu, un amour inconditionnel, un amour qui nous est assuré en Jésus-Christ, ne nous sera jamais ôté. C'est ce qui doit faire notre joie. Je suis aimé par celui qui a créé les étoiles, le ciel, l'univers. Je suis considéré comme son enfant, son fils. Et il prépare pour moi un avenir glorieux à côté de celui qui était le fils par-dessus tout, le fils favori, Jésus. On peut s'en réjouir ce matin. Parce que Jésus était aimé du Père, il y a des choses qui découlent de cela et qui faisaient sa joie. Et une des choses qu'on trouve présente dans la vie de Jésus et qui démontre la joie qu'il habitait, c'est la reconnaissance. La reconnaissance dont Jésus faisait preuve, dont il avait l'habitude, qu'il avait l'habitude d'exprimer à son Père face à toute chose qui se produisait dans sa vie. À la multiplication des pains, alors qu'il y avait cette foule qui était dans le besoin devant lui, avant que Jésus ne fasse quoi que ce soit, il prit les 5 pains et les 2 poissons qu'il avait là devant lui, et levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Jésus savait, en toutes circonstances, même s'il y avait des choses, des défis incroyables, il vivait dans la reconnaissance devant Dieu. Il rendit grâce. Avant de distribuer la scène, il a rendu grâce. Il a rompu le pain et il a dit à ses disciples, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Avant de ressusciter Lazare, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jésus vivait de façon positive toutes les choses qui étaient devant lui, et il avait cette attitude constante de reconnaissance, de gratitude envers Dieu. Nous avons aussi, et je crois que ça fait partie des ingrédients de la joie, nous avons à apprendre à vivre dans la reconnaissance. Dans le psaume 103, vous connaissez ce psaume certainement, il est dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Voilà, nous avons quotidiennement l'occasion de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et c'est tout un travail de nous rappeler, de nous remémorer les bienfaits dont nous sommes l'objet dans la vie quotidienne. Chaque jour, il pardonne mes fautes. Il guérit mes maladies. Certes, je vais voir le médecin, mais c'est lui qui agit dans mon corps pour que je sois guéri. Ambroise Paré, je ne sais pas si vous connaissez, le médecin du roi Louis XVI, je crois, disait « Je l'ai soigné, mais c'est Dieu qui l'a guéri. » Et c'est vrai aussi pour nous. Il rachète notre vie du gouffre. Il nous couronne de bienveillance et de compassion. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? Se demandait David dans le psaume 116. Ce qui fait notre joie, c'est de nous rappeler que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons reçu dans cette vie est le cadeau de Dieu, est un cadeau de Dieu. Quand nous sommes dans la revendication, nous ne pouvons pas être dans la joie. C'est quand nous comprenons que tout ce que nous recevons, c'est ce qu'a dit Jean-Baptiste, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc c'est intéressant de lire le moment où Jean-Baptiste dit cela. C'est dans Jean 3, verset 27. Parce que à ce moment-là, il y avait une dispute entre ses disciples Et oui, ces disciples qui se plaignaient parce que les gens se détournaient de Jean-Baptiste pour aller vers Jésus. Et ils étaient jaloux de cela. Mais il n'y a aucune aigreur dans le cœur de Jean. Il sait que ce qu'il a reçu vient de Dieu. Et Dieu peut lui ôter ce qu'il lui a donné. Ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour lui. Et nous devons vraiment apprendre à apprécier ce que Dieu nous donne. Aussi le succès, la réussite dans le travail, toutes les choses qui peuvent nous donner de la joie, nos enfants, tout cela est pour nous un cadeau de la grâce de Dieu. Et la joie est entretenue par la reconnaissance. Je suis en train de lire l'Épître aux Colossiens et je suis marqué par cette invitation constante de Paul, soyez reconnaissants, rendez grâce. La joie de Jésus, elle venait du fait qu'il était aimé par son Père, il savait cela, et qu'il savait apprécier aussi tout ce que le Père lui donnait. Le troisième élément qu'on trouve dans la vie de Jésus, c'est le contentement. C'est proche du deuxième, mais c'est aussi un fruit de cet amour dont on est conscient de la part de Dieu. Une des preuves évidentes que Jésus a appris à vivre dans le contentement nous est donnée dans le jardin de Gethsémané, où il est face à la souffrance la plus terrible qu'il va devoir affronter. Et là, Jésus dit à son Père, Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Le contentement s'exprime par cela, cette soumission, cette acceptation du chemin par lequel Dieu nous fait passer. Et je l'ai dit tout à l'heure, le contentement, il est aussi exprimé dans la vie de Jésus par cette parole, Ma nourriture, ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Jésus ne cherchait pas ailleurs des sources de satisfaction. C'était dans le sentiment de faire ce que le Père voulait pour lui qu'il trouvait son bonheur, sa nourriture, sa joie. Et en fait, Jésus veut nous apprendre à vivre dans le contentement. L'apôtre Paul le dit, le contentement ne nous est pas naturel, c'est une école dans laquelle on doit grandir. Se développer, c'est un apprentissage. Dans Philippiens 4, versets 11 et 12, Paul dit, J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre, il a appris à vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je pense que c'est une école des deux côtés. C'est une école d'apprendre à être content quand on a peu ou quand il nous manque quelque chose. Mais c'est aussi une école, parfois peut-être difficile, plus difficile, d'apprendre à être satisfait dans l'abondance sans avoir à rechercher toujours plus. Et l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 6, verset 6, dit, C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété, cette relation avec le Père. Alors si nous sommes ce matin dans la joie, une grande partie de cette joie vient du contentement dans lequel on apprend à vivre. Si nous ne pouvons pas remercier Dieu des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, eh bien nous ne sommes pas capables de vivre dans la joie. Nous ne pouvons pas connaître la joie au fond de nous. Et je crois qu'une des grandes choses que Dieu nous enseigne, c'est que ce soit, oui, c'est que ce soit dans la relation avec lui qu'on trouve la source de notre contentement. Rappelons-nous l'histoire de Job, hein? Job qui avait tout pour être heureux, comme on dit, qui avait beaucoup plus que la plupart des gens de son époque. Et qui a tout perdu. Et le grand combat, c'était de rester dans le contentement aussi pour Job. Nous ne savons pas dans quel temps nous vivrons, si les choses seront plus difficiles demain pour nous croyants. Dans de nombreux pays, les croyances sont en exil, doivent aller de lieu en lieu. Mais ce qui est frappant, parfois, quand on lit les nouvelles de ces croyants, c'est la paix qui est en eux et le contentement malgré tout. Le fait de dire oui à Dieu, comme Jésus devant la croix, que ta volonté soit faite, eh bien, cela nous débarrasse de toutes les aigreurs, de toutes les choses qui peuvent gâter notre vie et nous empêcher de connaître malgré tout la joie dans cette vie. Le fait d'être aimé par le Père, de vivre dans la reconnaissance et le contentement, était certainement des ingrédients de la joie de Jésus. Et un quatrième élément que la Bible nous donne, et c'est intéressant parce qu'on ne trouve pas cette parole dans les évangiles, pourtant elle est dite par Jésus, c'est dans les Actes des Apôtres. Il y a une parole, je ne sais pas si vous la connaissez, dans le livre des Actes, qui est attribuée à Jésus, mais qu'on ne trouve pas dans les évangiles. Vous voyez, c'est quoi, non? Non? Acte 20, 35. C'est Paul qui dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » On sait que Jésus a certainement parlé beaucoup plus que ce qui nous est rapporté dans les évangiles. Et les apôtres se sont souvenus de cette parole de Jésus qui n'est pas dans les évangiles, mais qui a été dite « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » C'est la quatrième raison de la joie de Jésus. Jésus trouvait sa joie à donner, à faire du bien aux autres, à travailler à ce que les autres puissent bénéficier de la guérison, du pardon, à ce qu'ils puissent être nourris, fortifiés, encouragés. Et Jésus nous rappelle que, au fond, la joie dans notre vie, elle est liée aussi au don que nous faisons de notre personne pour les autres. Ceux qui vivent pour eux-mêmes ne peuvent pas connaître la joie du Christ, la joie que connaissait Jésus, parce que toute sa vie a été un don, a été partagée en quelque sorte à ceux qui étaient autour de lui. Il y a un auteur, Ralph Challis, peut-être vous le connaissez, Ralph Challis, dans un de ses livres, il pose la question de savoir où se trouve la différence entre le lac de Galilée, qui est plein de vie, où il y a des poissons, et la mer morte. Pourquoi une telle différence entre les deux étendues d'eau qui ne se ressemblent pas? Eh bien, la réponse est simple. La mer morte est une mer fermée. Elle ne se déverse nulle part. Le lac de Galilée reçoit ses eaux du Jourdain, il est traversé par le Jourdain, il continue à donner ses eaux. Et c'est une belle image, une belle illustration, au fond, de ce qui fait qu'il y ait la vie quelque part. C'est quand notre vie sert juste d'outil, de canal, pour que ce que nous recevons de Dieu, plus haut, puisse être transmis plus bas. Nous sommes appelés, nous aussi, à entrer dans la joie de Jésus, qui est la joie de donner, de ne pas garder pour nous-mêmes. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de vivre pour soi-même, de chercher à s'enrichir par-dessus tout, sans jamais donner quoi que ce soit. Les gens les plus tristes sont les gens qui vivent pour eux-mêmes de manière cupide, sans avoir cet esprit qui pousse à donner, à partager. L'apôtre Pierre, dans les Actes, quand il décrit la vie de Jésus, dit « Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus qui allait et qui faisait le bien. Ça ressemble vraiment au lac de Galilée. La puissance de Dieu lui est donnée parce qu'il fait le bien derrière. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas de réponse, dit Proverbe 21:13. Nous sommes appelés à donner, à partager. Celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Il y a une relation de cause à effet entre la bénédiction que nous recevons et l'aide que nous apportons aux autres. Et donc, c'est la quatrième source de joie de Jésus. Il trouvait son bonheur à donner plutôt qu'à recevoir. Et puis on va aborder la dernière source de joie, c'est l'espérance qui habitait le cœur de Jésus. Dans Hébreux 12, verset 2, il est dit « En vue de la joie qui lui était réservée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jésus avait une perspective qui dépassait sa vie présente. Il savait pourquoi il était là et quel était le fruit qui allait découler de sa vie donnée pour les autres. Certes, il avait la croix devant lui, mais ce qui l'a aidé à supporter la croix, d'après l'Épître aux Hébreux, c'est la joie qui lui était réservée, la joie future. Il nous a vus derrière sa souffrance. Il savait qu'il y aurait des hommes de tout peuple, de toute nation, qui serait racheté et qui serait avec lui dans l'éternité. Et c'est ça qui lui a donné la force de continuer, de persévérer. Vous savez que les cantiques les plus beaux qui ont été écrits sont souvent les cantiques qui ont été écrits dans la souffrance. Les gens sont pleins d'espérance. Les gospels, les esclaves qui n'avaient pas d'avenir, pas de perspective dans ce monde, étaient habités par une espérance qui les rendait joyeux. Et on trouve déjà des échos de cette espérance, de cette joie dans la souffrance, à cause de l'espérance, dans plusieurs lettres de Paul, bien sûr. Dans Philippiens, alors qu'il est en prison, Paul dit aux Philippiens « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pas dans les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, peut-être elles sont difficiles, mais regardez la perspective qui vous attend dans le Seigneur. Romains 12, verset 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Et l'apôtre Pierre dit « Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Oui, il recueille toutes nos larmes dans son outre. Il n'oubliera aucune de nos souffrances et il nous consolera. Et l'apôtre Paul nous dit d'ailleurs que les afflictions légères par lesquelles nous pouvons passer produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Voilà, cinq sources de joie, il y en a peut-être d'autres, mais il me semble que ce sont en tout cas des pistes qui sont visibles dans la vie de Jésus et pour lesquelles nous sommes invités à le suivre, à les adopter aussi pour nous. Dans le livre de Néhémie, alors que le peuple reconstruisait la muraille de Jérusalem et qu'ils avaient à faire face à une forte opposition, Esdras leur a dit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » La joie de l'Éternel. C'est ça qui vous donnera la capacité de continuer, de poursuivre. Le royaume de Dieu, dit Paul, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans Romains 14, 17. Alors Jésus a prié pour nous, pour qu'il puisse être glorifié à travers nous. Il a prié pour notre protection. Il savait qu'il quittait ce monde et que lui était hors d'atteinte, en quelque sorte, de la pression, du mal. Nous, on continue à être dans ce monde. Mais le troisième sujet de prière qui nous donne la force de marcher avec lui et de poursuivre jusqu'au bout, eh bien, c'est la joie qu'il veut partager avec nous. Cette joie, elle était faite de plusieurs choses. D'abord, la relation d'amour qui existait entre lui et le Père. Ensuite, d'une disposition à la gratitude et la reconnaissance. Jésus appréciait pleinement les cadeaux de Dieu, de son Père, pour sa vie. Elle était aussi motivée par le contentement qui venait de sa joie, de son plaisir à faire la volonté de son Père, même si c'était difficile. Elle était faite de la joie qu'il connaissait dans le fait de donner aux autres ce que Dieu lui avait donné. Et puis elle était enfin motivée par l'espérance, la vision qu'il avait de l'éternité et du fruit de son labeur. Alors qu'on puisse aussi nous partager pour notre vie la joie de Jésus. Amen.